Les propriétaires de chiens, chats et furets et les professionnels s'intéressent de plus en plus aux médecines douces. Sylvie Ambikian et Françoise Heitz, expertes en la matière, nous livrent dans l'ouvrage « Santé naturelle de votre animal » paru aux éditions Terre Vivante, un livre de référence qui fait la différence pour les carnivores domestiques.
Vous avez mis toutes les deux vos compétences en commun pour apporter des conseils d'automédication raisonnée. C'est comme ça qu'on peut résumer
exactement,
un petit peu.
Exactement, tout à fait. On va parler d'automédication dans la mesure où c'est le propriétaire qui va soigner lui-même son animal. Donc, raisonner, bien entendu, parce que aussi bien dans le domaine de la médecine humaine que dans la médecine vétérinaire, il faut toujours se soigner soi-même avec prudence, ou soigner son animal avec prudence.
Pour avoir quelques exemples concrets, quels sont les mots auxquels vous apportez quelques solutions?
Donc déjà, dans l'ouvrage, il a fallu cibler, hein, parce que chaque animal a sa spécificité, chaque espèce a ses particularités, aussi bien au niveau des pathologies et des traitements adaptés. Donc on a ciblé déjà le chien, le chat, hein, puisque ce sont les deux principaux compagnons en termes d'animaux de compagnie des Français, et le furet qui est maintenant à la troisième place. Si on a choisi le furet, c'est pas uniquement parce qu'il arrive en troisième position des animaux de compagnie, mais c'est également parce qu'il a un point commun majeur avec le chien. Le chien, c'est que c'est ce qu'on appelle un petit carnivore. C'est un carnivore, donc au niveau du métabolisme et même de l'anatomie, il y a quand même pas mal de ressemblances. Et même au niveau des pathologies, on va toucher un petit peu tous les domaines. Notamment la dermatologie, hein, tous les petits problèmes cutanés, incluant les parasites, hein, principalement les puces, mais également les tiques, les teignes, les gales, enfin voilà, tous ces petits soucis parasitaires. Les eczémas, enfin le terme d'eczéma n'existe pas en médecine vétérinaire, mais ça revient à peu près au même, c'est les dermites, l'animal qui se gratte tout le temps, les plaies de léchage, vous savez, de l'animal qui s'ennuie, qui se lèche, tous ces petits problèmes cutanés. Après, au niveau digestif et respiratoire, on se tient vraiment à des troubles très banaux et très mineurs parce que il faut savoir décrypter les symptômes. Il faudrait surtout ne pas passer à côté d'une pathologie grave, hein. Et au niveau neurodigestif, on va dire, c'est le mal des transports. On a largement mis l'accent justement sur les signes d'appel. Ce sont les signes qui sont inquiétants. Un petit chien qui a une toux sèche peut présenter un problème cardiaque. Un animal qui se gratte fréquemment les oreilles peut avoir une gale sévère, qui peut même entraîner des problèmes de surdité ou des suppurations, des otites. Donc ça, on a vraiment mis l'accent dans le livre sur ces signes à côté desquels il ne faut pas passer. Et puis à partir de là, après, on a donné des solutions, disons également aussi pour la prévention.
Et aussi, vous accordez un long chapitre sur l'importance de l'alimentation qui doit être adaptée aux besoins nutritionnels de l'animal. Hein.
Tout à fait. Surtout les erreurs à ne pas faire. Et puis on a essayé, parce que c'est pas très facile, de donner un peu les règles pour aider les personnes qui voudraient retourner à ce qu'on appelle l'alimentation ménagère. C'est-à-dire pour des raisons diverses, qui peuvent être des raisons d'éthique de vie, de choix de vie, qui voudraient échapper au diktat des grandes marques de produits alimentaires pour animaux, dont certains sont très bien formulés, cela dit. Hein. Pas forcément ceux qui sont vendus en grande distribution, mais ceux qui sont vendus en animalerie sont généralement très bien formulés. Mais on peut aussi souhaiter préparer soi-même, pour diverses raisons, les aliments de son animal. Et donc là, il y a des erreurs vraiment énormes hein, qui peuvent être très très grave à ne pas faire. Hein.
Par exemple
Par exemple, moi, ça, je vais vous citer une anecdote. Une personne nous a présenté, je me souviens, c'était un jeune collet qui était victime de rachitisme. Rachitisme, c'est un déficit en vitamine D et puis problème de fixation du calcium, du phosphore sur les os.
Et ça provenait de l'alimentation ?
On n'a pas compris. Et en fait, elle l'avait mise à l'alimentation végétarienne. Et on lui a dit, mais vous savez, hein, un chien est un carnivore. Et elle dit, mais oui, mais je lui donne du lait. Oui, c'est vrai, normalement, le lait devrait pallier. Et elle nous a précisé du lait de soja. Là, c'était vraiment une erreur énorme, mais c'était quand même par méconnaissance des besoins alimentaires de l'animal. Il ne faut pas oublier que ce sont des carnivores qui ont aussi besoin de végétaux. Le furet un peu moins, mais le chien surtout a besoin d'une part de féculents, d'une part de légumes verts. Donc voilà, on a essayé de donner les règles de base avec quelques compléments alimentaires pour avoir une alimentation maison qui soit vraiment tout à fait adaptée. Pour répondre par exemple au problème de certains animaux qui sont allergiques aux aliments industriels.
Pour conclure, quel serait votre message pour les auditeurs de Radio Éthique qui souhaitent préserver la santé naturellement de leur animal ?
La plupart des remèdes que l'on connaît, des remèdes naturels que l'on connaît chez l'homme, homéopathie, plantes médicinales, sous forme de tisane éventuellement, ou de gélules, la gémothérapie marche très bien, les fleurs de Bac également, les huiles essentielles avec moult précautions et je dirais même de les éviter chez le chat et le furet, mais chez le chien on peut les utiliser en bonne connaissance de cause. Tous ces remèdes sont adaptés aux animaux, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est un domaine qui est très peu connu. Par contre, avoir l'avis de professionnel, c'est quand même une précaution parce qu'il y a quand même des spécificités. Puis je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler à son propre vétérinaire parce que c'est un domaine qui est beaucoup moins cloisonné que dans le domaine humain. Alors il y a aussi la pression de groupes pharmaceutiques, hein, ça il ne faut pas se le cacher.
Mais pas à même échelle.
Mais voilà, souvent les vétérinaires sont beaucoup plus ouverts, notamment beaucoup de vétérinaires pratiquent, parce qu'on l'apprend à l'école, pratiquent à la fois l'allopathie et l'homéopathie. Il ne faut pas hésiter à en parler à son vétérinaire et dire, moi, si vous pouviez éventuellement, pour ce type de problème de santé, orienter plutôt vers un traitement homéopathique. Ils y sont généralement très ouverts. Et il y a aussi de plus en plus de vétérinaires ostéopathes qui obtiennent de très bons résultats, mais pas seulement dans le domaine des problèmes articulaires. C'est très, très vaste et ça marche très, très bien sur les animaux. Ils sont, selon l'expression employée par ma consoeur et co-auteur Françoise, des éponges émotionnelles qui répondent très très bien à tout ce qu'on appelle médecine énergétique. Également, on a aussi mis l'accent sur la compréhension, sur l'équilibre entre le maître et son chien et la compréhension du langage de l'animal, parce que ça fait aussi partie de sa santé, parce que comme je disais, éponge émotionnelle, il y a beaucoup de problèmes chez les animaux qui sont liés au fait qu'il s'ennuie ou que son environnement ne lui est pas bien adapté ou bien qu'il sort pas assez. Et ça peut se manifester vraiment par des troubles physiques assez spectaculaires.